sommes sur Ali de la Femme, on est mardi matin. Et on est dans La vie est un roman et je reçois Béatrice Joyeux-Prunel qui fait un travail colossal, qui a publié 1000 pages d'une histoire des avant-gardes globale qui comprendra 3 volumes et dont 2 volumes sont publiés chez Folio. Le premier volume couvre la période 1848-1918 et le second couvre la période 1918-1945 et ça s'appelle Les avant-gardes artistiques et c'est sous-titré Une histoire transnationale. Bonjour.
Bonjour.
Alors on pourrait commencer par parler de la globalité du projet. Est-ce que c'est une première mondiale, par exemple? Est-ce que c'est la première ou est-ce qu'il y a d'autres, il y a eu d'autres tentatives d'objets synthétiques comme ça?
Sur les avant-gardes, ce serait un peu orgueilleux de dire que c'est une première, mais ça l'est en fait. Oui. J'ai fait ce que je cherchais, je le trouvais pas quand j'étais étudiante moi-même. Et après l'avoir fait, puisque je suis en train de relire les épreuves du tome 3, je comprends pourquoi ça n'existait pas. Parce que c'est un travail, un gros travail.
Il sort quand le tome 3 ?
Je pense en 2018. Après, tout dépend toujours des calendriers, des éditeurs qui ont beaucoup de travail et qui font beaucoup aussi de relecture, de vérification. Un travail formidable. L'équipe de Gallimard est extraordinaire. Mais je suppose en 2018, oui.
Oui, absolument. J'ai vu que Folio, enfin, c'est un autre sujet, mais Folio est extrêmement dynamique sur l'aspect aussi, par exemple, littérature, toutes les biographies qu'il publie, inédites.
Oui.
C'est assez étonnant.
Oui, effectivement, ce sont des volumes en format poche. L'idée était de faire des formats accessibles, de prix accessibles, parce que l'histoire de l'art est souvent chère. À cause des images, à cause du prix de reproduction des images, droit sur les images, c'est un petit peu complexe. Et là, on a vraiment eu ensemble un projet de volume de poche qui soit accessible. Donc le premier tome coûte même pas 10 euros et le deuxième un petit peu plus parce qu'il est plus gros.
Bon, ils sont difficiles à manier, mais c'est peut-être pas le moment de le dire. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a quasiment pas d'illustration. Et donc ça met en valeur le texte. Donc on sort largement du Coffee Table Book et on entre dans un autre domaine. On a toujours eu des livres assez laids en histoire de l'art, sans illustration, avec des illustrations en noir et blanc. Et quand c'était beau et quand c'était bien fait, ça faisait l'impasse sur l'histoire de l'art parce que ça visait une autre clientèle. Alors Gallimard avait fait un effort de livres illustrés qui était pas mal. Ils auraient pu vous faire des livres dans leur collection prestigieuse et les publier en poche ensuite. Mais enfin, je pense que c'est pas le sujet du jour. Cette espèce de première mondiale est aussi rendu possible parce qu'il y a des moyens nouveaux qui se sont développés.
Alors, exactement.
On pourrait parler des fondements théoriques, enfin et pratiques aussi du travail. Comment ça s'est... En gros, c'est une approche qui vient de l'histoire sociale de l'art, enfin d'un certain type d'histoire sociale de l'art,
oui,
qui vient de la sociologie et qui vient surtout, enfin pas surtout, mais aussi des études quantitatives rendues possibles par le développement de l'informatique.
Oui, exactement. Oui. La sociologie d'abord, c'est de là que je viens. Des études qui m'ont permis de découvrir avec pas mal de fascination d'ailleurs, quand j'étais jeune étudiante, d'abord la pensée de Pierre Bourdieu, qui je crois est assez formidable. Et puis aussi, quand vous arrivez et que vous entre guillemets débarquez en histoire de l'art, vous découvrez un monde où cette approche, maintenant, elle est beaucoup plus acceptée. Mais à l'époque, fin des années 90, elle était même refusée, elle était très absente. L'histoire de l'art a une tradition très monographique, au sens où on fait l'histoire d'un artiste dont on écrit les louanges, ce qu'on peut comprendre, surtout si vous voulez vendre votre expo. On ne va pas écrire à mon artiste, il a fait comme tout le monde. Quand on est un musée, c'est normal. Et en même temps, ça a des faiblesses. Et quand vous arrivez de la sociologie, des sciences sociales, que vous lisez 1, 2, 3, 5, 20, 50, 100 livres qui vous expliquent que leur artiste, chacun son artiste a inventé la modernité, vous n'êtes plus très convaincu, vous avez envie de prendre du large. Et donc j'ai essayé, quand j'ai commencé mes études comme historienne, de le faire d'une approche plus global, au sens d'abord collectif, essayer de comprendre les logiques collectives qui étaient à l'œuvre. Alors, j'étais certainement pas la première, il y a eu toute une école de sociologie de l'art, mais qui n'avait pas eu, comme vous le disiez, les outils que nous avons maintenant, c'est-à-dire les outils de l'histoire quantitative, c'est-à-dire faire des statistiques, compter, comparer, voilà, c'est ce que j'ai fait. Et puis aussi, la chance que j'avais, c'est d'avoir une source que les historiens de l'art manient très souvent. C'est le catalogue d'exposition. Les catalogues d'exposition, ils ont beaucoup d'informations. En général, on les utilise pour regarder quel artiste a exposé quelle œuvre, à quelle expo, quelle année, quelle date, etc. Mais on peut prendre ça aussi de manière plus éloignée, plus distante. Et donc, on se dit, bah, tiens, il y a combien d'artistes? D'où viennent-ils? On a des choses fabuleuses dans ces catalogues. On a des adresses. On a parfois les dates de naissance. On a surtout les nationalités. Et donc, on peut après faire des cartes, regarder comment ça circule. Voilà, tout ça. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler, parce que j'avais besoin de ce recul et qu'avec les catalogues, j'avais ce point de vue un peu distant qui permettait aussi de mettre à distance toute cette littérature d'histoire de l'art qui m'influençait trop et que j'arrivais plus à maîtriser moi-même. Donc c'est ça qui m'a aidée aussi à essayer de patiemment, on va dire, parce qu'il faut être patient, essayer de reconstituer la structure. C'est un mot un peu connoté, la structure, mais je crois qu'il a du sens. C'est-à-dire dans quel cadre les artistes travaillent, dans quel cadre les œuvres circulent, dans quel cadre elles sont vues, ou pas vu, comment on en parle, comment on n'en parle pas, et comment aussi les œuvres sont progressivement acceptées, achetées, et puis muséalisées. Et mon idée, c'était de comprendre, moi qui venais d'ailleurs, j'allais pas au musée quand j'étais jeune, je viens d'une famille qui n'allait pas au musée, et même moi, je n'aimais pas aller au musée, je comprenais pas. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre. Mais en voyant seulement des images, je comprenais pas. En lisant les ouvrages d'un artiste, puis sur un artiste, puis sur un autre, je comprenais pas non plus. Et donc, j'essayais de comprendre. C'est ça qui m'a habité, je crois que c'est une quête un petit peu, et tout chercheur a cette quête d'essayer de comprendre, et moi j'ai voulu comprendre un petit peu en fait pourquoi il y avait ce qu'il y avait dans nos musées d'art moderne, comment on en était venu là, comment on avait ce qu'on appelle aujourd'hui un canon qui s'était imposé, pourquoi ce canon prenait certains et pas d'autres, certains étrangers mais pas certains étrangers, comment tout ça s'était développé. Et donc j'ai essayé de le travailler avec ces approches donc sociales, quantitatives, et aussi ce qu'on appelle une approche transnationale, c'est-à-dire de sortir du paradigme nationaliste qui est très prégnant en histoire de l'art aussi. Par exemple, vous avez un livre qui s'appelle « Histoire de l'art français », mais dedans, on vous met Picasso, né à Malaga, actif à Barcelone, puis à Paris, et qui ne vendait en gros qu'à des amateurs et des étrangers, et dont le marchand était juif allemand. Bon, ça n'a pas de sens là-dedans, le paradigme du national. Donc ça aussi, l'idée de sortir du national, même si le nationalisme était très important, mais essayer d'articuler les échelles, le national, l'international, le local, le régional. Tout ça, c'est ce que j'ai essayé de faire pour mieux comprendre, après c'est une approche, il y en a d'autres aussi, comment aujourd'hui on parle des avant-gardes, de l'art moderne, ce qu'on appelle le modernisme au sens états-unien du terme. C'est ça qui m'a intéressé.
Oui, donc on a une histoire canonique, on a une histoire des saints, des avant-gardes que vous essayez de déchristianiser et rendre à ces multiples pôles. Et je pense par exemple à une exposition sur Dada qui avait lieu à Beaubourg et dont l'annuaire ressemblait, et c'était fait exprès, à un annuaire de téléphone. J'ai fait un lapsus. Le catalogue ressemblait à un annuaire de téléphone et où il y avait toutes les manifestations d'Europe occidentale sur le dadaïsme, c'est-à-dire effectivement, non pas des catalogues, mais des publications, tous les petits magazines, toutes les, parce que c'était, il y avait énormément de publications qui permettaient aux gens de se rencontrer, de circuler, et il y avait des réseaux, et ça fonctionnait par réseau. On a un exemple parisien, c'est Apollinaire, donc il y avait un réseau qui fonctionnait très bien, et on voit très bien quand on s'intéresse à Dada, à Zurich par exemple, que c'est l'existence d'un réseau, et que là, par exemple, l'implantation géographique, elle est importante à cause de la guerre, mais elle n'a pas d'importance réelle en géostratégie, en puissance, et la Suisse n'est pas la Suisse d'aujourd'hui comme puissance, enfin comme rapport à l'argent, c'est tout à fait un autre Zurich. Et donc on a aussi, donc il y a une histoire canonique en gros qui dit Dada, surréalisme, expressionnisme abstrait. Et donc après, c'est des racines. Avant, c'est les racines, c'est comment on arrivera à ça. Donc, hein. Et puis comment ça a lieu et comment le surréalisme devient hégémonique et puis comment les Américains prennent leur lait. Folio vient de rééditer un livre de 2000 de Annie Cohen-Solal sur les avant-gardes, sur la création de l'art américain, et dans lequel on voit effectivement que les Américains se forment, disons, jusqu'en 1919 en France, et qu'ils ont le choix entre faire une école nationale ou une école internationale. Et si c'est une école internationale, ils se forment en France, comme les artistes français au XVIIIe siècle allaient à Rome, par exemple. C'est exactement le même mécanisme, c'est un centre d'art. Il y a une anecdote qui est amusante, d'ailleurs, à ce point de vue-là, c'est que David, pendant la Révolution française, écrit à ses copains à Rome en disant qu'il s'ennuie, en juillet 89, parce qu'il ne se passe rien à Paris et qu'il préférait être avec eux à Rome, parce que Rome est l'endroit branché de l'époque. On a donc, c'est des pôles comme ça. Oui, donc, alors, comment est-ce qu'on pourrait essayer d'expliquer ce contenu extrêmement foisonnant. Il y a aussi, donc, alors... c'est pas à la marche, mais c'est vraiment très important. Mais il y a cette espèce de reconsidération de l'impérialisme. Hein. Vous venez de parler de tous ces artistes que la France a assimilés, ce qu'ils appelaient l'école de Paris. Et c'est clair que il y avait chaque fois un foisonnement local qui n'est absolument pas considéré, parce que c'est des réalités géopolitiques qui ont compté, des expansions, et que ça s'est remis en question, et qu'on va avoir effectivement une autre histoire de l'art, enfin c'est les gender studies, les culture studies, hein, qui reviennent là aussi de façon inconsciente. Il y a une remise en cause de cette idée de centralité, et on travaille sur les périphéries. Et chaque périphérie est son propre centre, donc... Tout ça se demande à être dialectisé.
Alors, ce que vous venez de dire est très, 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 très riche. Je vais essayer de prendre le relais de manière... en essayant de tenir compte de tout ça. Vous avez commencé par dire que je déchristianise l'histoire de l'art, le canon.
Je pense à la vie des saints de
Voragine. Voilà, c'est ça. Alors, je ne sais pas si je déchristianise, ça dépend comment on entend christianisme. Pour moi, le christianisme, c'est une incarnation. Donc, au contraire, j'incarne, j'essaye de voir les choses.
Religion universelle, je pensais.
Voilà, ce qui m'intéresse, c'est d'être pragmatique, c'est de voir les choses. Ce qu'avant, on appelait les faits. Parce que on a beaucoup tendance à dire les faits n'existent pas, sont construits, mais quand même il y a des choses réelles, il y a des choses inventées, il y a des choses plus ou moins solides. Donc qui est là, qu'est-ce qui circule, à quel endroit, comment? Et c'est pour ça qu'il faut parler des périphéries, et parce que justement ces périphéries, elles sont là et elles sont là en permanence. Et du coup justement c'est ce projet auquel beaucoup d'historiens de l'art de ces entre guillemets périphéries appellent, qui est important, c'est de mettre les choses à plat. Horizontaliser. Mettre à plat, ça veut dire qu'effectivement, on met toutes les choses au même niveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison qu'on travaille plus sur quelqu'un qui était à Paris que sur quelqu'un qui était à Lisbonne ou à Prague, ou même dans un petit village, ou dans une ville moins connue, Arbno, ou je ne sais pas, à Lwów en Pologne, vous voyez. Donc mettre à plat et ne pas d'avance penser que tel artiste est plus fort qu'un autre, ou que tel centre est plus important qu'un autre, ou que on s'ennuie plus à ici qu'ailleurs, hein. Ça, c'est un petit peu l'idée d'essayer de se placer dans cette position, même si c'est pas facile et même si il faut assumer que quand on est, moi, par exemple, je travaille à Paris, je suis française, je lis mieux et je comprends mieux le français, je comprends l'allemand, l'anglais, l'italien, l'espagnol, le portugais à peu près, mais ça limite quand même ma capacité de travail et je dois aussi être modeste et me situer. Ça, c'est le principe du sociologue. Dire oui, je suis à Paris, je l'assume et j'en assume les limites. Voilà. Mais quand même, on peut essayer d'être horizontal, de mettre les choses à plat. Et c'est là que le fait de compter, de faire des chronologies, le travail de base de l'historien, mais qu'aujourd'hui, beaucoup oublient, le fait de localiser, hein, de faire des cartes. Hein, qu'est-ce qui se passe à quel endroit? Où circule telle œuvre? Où circule telle exposition? Où habitent les collectionneurs, où habitent les artistes, tout ça, ça permet de mettre à plat les choses. Du coup, effectivement, quand on commence son travail, c'est foisonnant ce que vous disiez, parfois c'est pas si facile d'organiser les idées, mais quand même, on se fait une idée, par exemple, déjà, une idée, une manière de travailler qui est négative. Ma première attitude, elle est, il faut le dire, elle est négative, c'est-à-dire de taper, entre guillemets, c'est un réflexe un peu facile, mais ça aide, taper contre le canon. Alors, qu'est-ce que c'est que le canon d'histoire de l'art ? Donc, c'est effectivement ce qu'on appelle une hagiographie, c'est-à-dire nous avons une histoire de saints. Et ces saints, aujourd'hui, ils sont où ? Ils ne sont pas dans les églises, ils ne sont pas dans les cimetières, ils ne sont pas dans les mannes chez les gens, dans leur maison. Les saints, ils sont au musée. C'est-à-dire, vous allez au musée, on vous demande une attitude religieuse, on vous demande de ne pas faire de bruit. Les gens ne font pas de bruit dans les musées, pas sûr qu'ils n'en fassent pas dans les églises. Vous voyez, le sacré s'est déplacé. Donc, une histoire de saints, les saints, ils sont au musée, il y a des mises en scène, il y a une espèce, parfois une liturgie, on suit un parcours. Tout ça, voilà, ça c'est la première chose. Le canon de l'histoire de l'art, il est hagiographique. La deuxième chose aussi contre laquelle je suis allée, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'approche monographique. Monos, c'est un seul, c'est-à-dire que en histoire de l'art, on vous dit vous allez commencer par travailler sur un artiste ou sur un collectionneur ou sur un groupe ou sur un thème dans l'histoire de l'art. C'est bien, c'est important. Je ne suis pas en train de cracher sur ceux qui font de la monographie. Mais la chance que j'ai, c'est que moi d'ailleurs, j'ai pu bénéficier des monographies des uns et des autres, les lire, les comparer, les mettre en regard, etc. Mais quand même, pour écrire un récit, ça ne m'intéresse pas de faire, il y a eu d'abord Picasso, puis ensuite il y a eu Matisse, ou plutôt d'abord, je dis n'importe quoi, il y a eu d'abord Courbet, puis il y a eu Monet, puis il y a eu Matisse, puis Picasso, puis Dada, puis voilà. Donc ça, c'est une autre chose. Un autre point du canon de l'histoire de l'art contre lequel je vais, c'est cette espèce d'évolutionnisme un peu simpliste qui dit, vous avez le réalisme, puis l'impressionnisme, puis le néo-impressionnisme, et puis le pou et le post-impressionnisme. Ensuite, on met une flèche, on va aller vers plus de couleurs ou plus de formes, plus de structures, plus de construction ou de déconstruction. Donc, on va vers Cézanne et puis vers le cubisme. Et puis ensuite, on vous dit, et puis il y a Dada qui casse tout. Et puis ensuite, vers le surréalisme. Et puis ensuite, l'expressionnisme abstrait, etc. Ça, ce sont des ismes dont, si vous aimez lire, je sais que vous aimez lire, vous avez peut-être lu Isme, le livre d'Anna Boschetti, qui démontre ça de manière passionnante, comment ces ismes, ce sont des mots qui sont performatifs au sens où ils ont un effet immédiat qui est de naturaliser des ismes. En gros, vous allez dans un musée, maintenant ça l'est un petit peu moins, mais ou bien vous avez une salle par thème de isme ou bien par thème d'un artiste. Et du coup, ça vous oblige à penser qu'une œuvre doit être dans un isme et qu'un artiste doit être dans un isme. Sauf que les artistes, ils ont été et ils sont beaucoup plus libres que ça. Ils choisissent ce qu'ils font. Si vous prenez par exemple Picasso, un artiste connu, à la même époque, il fait du cubisme, mais il fait aussi d'autres choses. Il ne fait pas que du cubisme. Donc ça aussi, c'est un élément contre lequel je suis allée et j'essaye d'aller, même si, des fois, évidemment, ces notions sont importantes aussi, évidemment. Un autre élément du canon de l'histoire de l'art contre lequel j'ai essayé d'aller, c'est le nationalisme, j'en ai parlé. Et enfin, le formalisme. Qu'est-ce que c'est que le formalisme ? C'est s'intéresser d'abord à la forme de l'œuvre et lui donner une valeur comme telle. C'est très dangereux, le formalisme. Pourquoi c'est très dangereux ? Parce que ça dépolitise les œuvres. Ça les vide de leur sens. On peut prendre un exemple, par exemple, c'est le muralisme mexicain. Les œuvres des avant-gardes mexicaines qui naissent à la suite d'une révolution, républicaine, laïque, extrêmement anticléricale, qui essayait de sortir son pays d'un contexte d'inégalité sociale, agricole, économique extrêmement forte, et en même temps nourrie par l'impérialisme du pays du Nord. On ne va pas dire l'Amérique, on va dire les États-Unis, ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, ça aussi, c'est un problème de vocable qui est intéressant de réfléchir. Mais donc, les avant-gardes mexicaines, ces avant-gardes-là, elles ont mis en route toute une campagne avec le gouvernement mexicain arrivé au début des années 20 de propagande, on peut dire aussi d'évangélisation entre guillemets républicaine de leur population, avec des œuvres murales qui parlaient de l'histoire du Mexique, qui construisaient un autre récit du Mexique qui s'appuyait sur un passé peut-être mythique, mais pas moins mythique que celui qui se référait à l'héritage hispanique, un passé qui valorisait le peuple, qui valorisait la terre, qui valorisait l'égalité, etc. Ces avant-gardes-là, 1928, extrêmement importante, extrêmement puissante culturellement dans leur pays. Elles sont puissantes aussi au niveau international. Du coup, elles gênent. Elles gênent qui ? évidemment leur premier ennemi, c'est-à-dire les États-Unis. Par exemple, vous prenez Diego Rivera, David Siqueiros, Orozco, c'est les trois grands, on les appelle, ces peintres du muralisme mexicain. Ils faisaient beaucoup d'œuvres qui tapaient sur les intérêts bancaires, pétroliers des États-Unis. Vers 1927-28, qu'est-ce qu'on voit ? Les États-Unis changent de politique. Ils décident de faire une politique de bon voisinage avec le Mexique. Pourquoi bon voisinage ? Parce qu'ils y avaient intérêt. On est au moment où l'empire pétrolier, les entreprises pétrolières s'accordent, s'organisent, se répartissent les marchés. Et qui prend le marché, s'attribue sans l'accord des peuples les zones du Mexique, c'est les États-Unis, c'est l'empire Rockefeller. Donc quel est leur intérêt ? C'est que le Mexique arrête de leur taper dessus, arrête de dire que Rockefeller est méchant, arrête donc de fomenter des grèves dans les zones d'exploitation pétrolière, etc. Donc on va faire une politique de bon voisinage, et dans cette politique de bon voisinage, évidemment, ils y ont pensé très vite, il y avait les arts. Il y avait les arts, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, l'ambassadeur des États-Unis au Mexique, tout d'un coup, se met à valoriser l'art ancien du Mexique, collectionner, envoyer des œuvres vers les États-Unis pour faire des expositions. Et qu'est-ce qui se passe 2 ans plus tard ? Qu'est-ce qui ouvre ? Le MoMA. Le MoMA a été ouvert alors que la famille Rockefeller ne s'intéressait pas à l'art contemporain. N'en avait rien à faire. Sauf qu'elle a fini par se rendre compte qu'il fallait s'y intéresser parce qu'il y avait des avant-gardes qui leur tapaient dessus. Et donc, il fallait les calmer, les muséaliser. Et ça, on le voit dans les courriers de la Fondation Rockefeller au début des années 30, fin des années 20, début des années 30. Si on les achète, ça va les calmer. Et qu'est-ce qui va les calmer ? C'est de mettre les œuvres dans les musées, de leur donner de l'argent. Mais aussi, ce qui va calmer le public, c'est de se dire que ces œuvres, elles ont une valeur formelle. Je reviens au formalisme et au danger du formalisme qui dépolitise. Effectivement, on a transformé les peintures murales mexicaines en tableaux de chevalet. On a transformé les fresques qui parlaient de l'épopée de la libération du Mexique contre les intérêts coloniaux, contre les intérêts industriels, etc. L'armée, les puissances militaires, ça on l'a transformé en jolis tableaux qui parlaient des paysans du Mexique avec leurs jolis chapeaux, etc. Donc vous voyez, ça aussi le formalisme, ça reste intéressant, c'est important de savoir comment un tableau est construit, comment les formes évoluent, mais il y a des choses que ça ne dit pas et que ça contribue à cacher. Donc ça, c'est un des derniers points contre lesquels, entre guillemets, dans mon travail sur les avant-gardes artistiques, sur un siècle un peu plus, je tape pour faire autre chose. Je ne suis pas la seule et on est beaucoup. Voilà. Alors quel est l'enjeu de ça ? Il y a plusieurs enjeux. Donc être plus pragmatique, donner une place aux périphéries. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, il y a tout un mouvement depuis les époques de décolonisation qu'on appelle aujourd'hui d'abord post-colonial et aussi décolonial, qui dit il faut décoloniser nos manières de faire, nos manières de penser, nos manières de travailler. Alors, cette philosophie de la décolonialisation, elle est très exigeante. C'est une philosophie de la libération. Elle a parfois tendance à dire vous êtes blanche, madame, vous êtes née en France, vous travaillez à Paris, terminé, on ne veut plus vous écouter. Il faut que j'assume. Oui, je ne suis pas métissée, je ne suis pas née au Mexique, etc. Mais quand même, avec d'autres approches, d'autres intérêts. J'essaye de m'ouvrir, j'essaye de regarder ce qui se fait ailleurs, comme je peux, mais je crois que donc je peux contribuer par ce travail à cette décolonialité qui permet de faire une place aux périphéries et de voir qu'il y a des hiérarchies qui nous sont imposées depuis longtemps. L'idée de Paris, centre des avant-gardes de la modernité depuis le 19e siècle, depuis, disons, les années 1850, ça marche pas très bien. Et il faut le complexifier. Et une autre idée aussi, là on le comprend mieux quand on est français, donc on y adhère davantage, l'idée de New York, centre mondial des avant-gardes après 1945, ça ne marche pas.
On pourrait prendre, enfin il y a beaucoup, il faudrait essayer de faire image, par exemple pour l'idée de la sainteté de l'artiste, il suffit de penser à Van Gogh. C'est pratiquement impossible de dire du mal de Van Gogh. Et quand Orsay a fait une exposition Millet Van Gogh en montrant que Van Gogh reproduisait à sa façon des Millet, les gens avaient envie de pleurer. C'était impossible pour eux qu'un saint homme ait des modèles. Et en plus, comme ils y connaissent rien, Millet leur paraissait tellement
dépassé, tellement ancien,
enfin, tellement boîte de biscuits, tellement image d'Épinal, enfin quelque chose de laid.
Oui.
Il y a une autre chose qui est vraisemblablement d'époque, c'est qu'une des un des aspects difficiles du livre, c'est la linéarité de l'écriture, c'est son côté discursif.
Oui.
Et Kubler, qui était un élève de Faucillon, très tôt, fait des arborescences, fait des graisses à l'époque en typo, c'est-à-dire des flèches qui sont courbes et qui ont des graisses différentes.
Ouais.
Et si on prend un propos comme celui-là, parce qu'il faut se défaire aussi, et c'est très difficile, des notions de centre et périphérie, et il faut aussi savoir que l'histoire n'existe pas et que c'est en fonction des besoins actuels qu'on refait à chaque fois l'histoire.
Exactement.
Et donc vous donnez un exemple, je crois que c'est vous, dans ce livre qui est absolument juste, c'est quand Picasso s'inspire de l'art africain, Picasso est un génie parce qu'il arrive à tirer quelque chose de l'art des Africains, et quand Ribera s'inspire de l'art des Incas, c'est de la récupération, c'est du folklore, c'est quelque chose qui est quand même douteux.
Oui, et en
donc
même temps, qu'il y a une valeur quand même.
On a ces deux aspects.
Tout à fait.
Et je pourrais donner un autre exemple aussi de choses actuelle, qui est formidable, c'est la puissance économique de la Chine aujourd'hui. C'est que quelqu'un comme Zawuki, qui est arrivé en 45 en France, est le 17e artiste le plus cher du monde.
Oui.
Il partageait à Paris son atelier avec un Libanais dont on n'a aucune trace.
Et oui.
Son nom ne figure nulle part. Je ne sais pas si ses œuvres ont été conservées. Parce que le Liban, c'est très peu d'habitants. Ce n'est pas une puissance. Et pour les Chinois, et c'est vrai de la France, mais ça doit être vrai des autres pays. Mais on connaît l'exemple français parce qu'on est en France. Mais pour les Chinois, Zawuki est un espèce d'explorateur qui est venu en France explorer les moyens d'expression moderne de l'époque et qui les a sinisés. En plus, c'est ça l'idée. C'est parce qu'il est, reconnu par les parce qu'il a fait une synthèse. Et donc, ça parle en faveur des Chinois et non pas de Paris. C'est donc qu'on peut inverser ces rapports.
Inverser ces hiérarchies.
Et donc, on a, après, il faudrait comprendre ce que c'est la centralité de la France, Louis XIV, la Révolution française, parce qu'on a en face de nous l'Allemagne et l'Italie, par exemple, qui sont des pays très récents. La Belgique, par exemple, on n'en parle pas. C'est une construction qui est venue de l'extérieur. La construction de la Hollande date de la même époque que celle de la Belgique, etc. Donc, il y a une histoire géopolitique qui est très importante et qui a aussi à voir avec, et évidemment, que la centralité de Paris en France ne fait pas question. Et il n'y a qu'à penser, je ne sais pas, à la Suisse, par exemple, qui est l'antithèse absolue. Ce que c'est une ville de 150 000 habitants en Suisse et une ville de 150 000 habitants en France, ce que c'est en Italie, ce que c'est un land allemand, pour comprendre de quoi on parle. On ne comprend par exemple pas, même jusqu'en 1950 pratiquement, l'histoire d'Allemagne depuis la France à cause des centres.
À cause de
on a cette idée de hiérarchie et Berlin n'existait pas en fait. C'est des choses, enfin, c'est comme si Berne était la capitale de la Suisse. Enfin, c'est aussi. Et puis il y a aussi des réalités linguistiques, par exemple pour nous, il y a pour la Belgique, enfin, etc. Donc on a un tas de problèmes de ce type-là. Et je pensais aussi sur la démarche du livre, le moment auquel il vient. Je pense que donc, vous datez la fin des avant-gardes, en gros, de la fin des années 70, de façon assez abrupte dans le livre. Enfin, c'est ce que vous dites, qu'après, c'est le marché qui décide ce que sont les avant-gardes. Et c'est aussi un phénomène de deuil, en fait, la fétichisation vient toujours quand la chose a disparu. Alors, c'est des états de disparition.
Oui.
Le terme folklore intervient au moment où ça va disparaître. On peut avoir des créations de concepts comme celui de la préhistoire qui est dans le même mécanisme, mais on va faire une petite pause musicale. Pascal, je ne sais pas où tu es, c'est l'admi. Et parce que je dois annoncer régulièrement qu'on est sur Aligre FM.
Kurt Schwitters spricht Teile seiner Sonate mit Urlauten. Oh, der Bebe, der Bebe, Fünsbe, der Bebe, Fünsbe, Bebe, Fünsbe, Bebe, Fünsbe, Bebe, Zew, Pegit, Wie, der de Sünder, Iem, Pettuto, De, Jüka, Rinzeke, de Bebe, Hinskermü, Ziu hun se ziu rinskermü, rackete bebe. Rum tüv to, ziu hun se ziu rinskermü, ziu hun se ziu rinskermü, rackete bebe, rackete bezi. Fümsböwe te zeu, U, T, T, W, W, 5. O, B, 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 B. O, C, 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 C. O, Rinsakata, B, B. O, Torgel, ta 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 ta, oka, 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 Lanka Torgel, pi 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 pi, tsuka, 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 Lanka Torgel, rum, rum, Lanka Torgel, tiulen trill, num, tum, trill, Lanka Torgel, rum, tum, to, Lanka Torgel, tiulen trill, num, tum, trill, Lanka Torgel, ta 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 ta, oka, 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 Lanka Torgel, pi 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 pi, tsuka, 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 Lanka Torgel, rum, rum, Lanka Torgel. Tiu iu, tiu au, tiu iu, tiu a, tiu iu, tiu au, tiu iu, tiu o, tiu iu, tiu au. Lanka Torgel, ta 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 ta, oka, 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 Lanka Torgel, pi 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 pi, tsuka, 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 Lanka Torgel, rum, rum, Lanka Torgel, tiulen trill, rum, tum, trill, Lanka Torgel, rum, tum, to, Lanka Torgel, tiulen trill, rum, tum, trill, Lanka Torgel, ta 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 ta, oka, 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 Lanka Torgel, pi 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 pi, tsuka, 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 Lanka Torgel, rum, rum, Lanka Torgel.
Là, c'était Kurschwitters, la Ursonate, donc... Un jeune homme qui voulait être accepté par les dadas et qui n'a pas été pris parce qu'il a ouvert la porte à Hülsenbeck. Il était en peignoir et en pantoufles et bon, ça a révulsé Hülsenbeck. Et après, Hülsenbeck a appris qu'il était propriétaire de la maison dans laquelle il habitait. Alors ça, c'était impossible pour les dadaïstes allemands quand on était propriétaire de devenir dadaïste. Et donc c'est ça l'histoire des avant-gardes. On est sur Aligre FM, il est 9h30, on est mardi matin et je suis avec Béatrice Joyeux-Prunel et nous parlons de ces deux volumes et bientôt trois publiés chez Folio sur les avant-gardes artistiques. Et donc je lui disais pendant qu'on écoutait la Ursonate que c'était un tombeau pour les avant-gardes artistiques, c'est aussi parce qu'elles sont derrière nous et elles pensent que depuis 1980, les avant-gardes artistiques sont décrétées par le marché
même
et
avant,
par les institutions.
Mais...
Alors c'est tout, mais c'est une la guerre déjà avec les impressionnistes pour recevoir les toiles au Luxembourg quand ils font. Quand, je ne sais plus, c'est pas Zola, mais c'est Monet, en fait, quelqu'un fait une...
Le leg Caillebotte, Caillebotte, fait un leg.
Et puis aussi l'achat du Dain Manet, à un moment donné, hein, c'est un geste...
D'Olympia en 1889.
Voilà, là, c'est ça, c'est un geste décisif. Je pensais, donc, sur l'habitus, sur la notion de chant chez Bourdieu, mm-hmm. tout ça, c'est une des... Si je devais avoir une réticence par rapport au livre, c'est simplement parce que votre travail est mégalomaniaque, donc c'est les limites de la mégalomanie. C'est extrêmement difficile quand on sort du champ auquel on est familier, mm-hmm. d'arriver à voir comment les gens, quel était leur rapport entre eux pour l'obtention des places, de la reconnaissance symbolique, etc. Mm-hmm. C'est difficile de dominer à la fois l'Argentine, le Mexique, le Japon. Japon, l'Europe de l'Est, des gens qui ont des mœurs et des histoires extrêmement variées et différentes. Et je voudrais dire aussi, alors ça c'est très important, sur cette problématique du centre et de la périphérie, c'est des concepts qui ont été développés en Italie. Il y avait très tôt, il y a un type qui s'appelait Longhi, qui était un grand historien d'art, qui essayait de faire en sorte qu'on sorte des grands centres comme Rome, Florence, Pise, etc. et qu'on fasse une histoire de l'Italie, entre autres Sienne dans son cas. Et là, on est tout à fait dans un autre rapport à ce centre et cette périphérie. Il faut défaire les jugements de valeur, il faut défaire la perception qu'on en a. Et c'est vraiment là que ça se passe. Enfin bon, je vous laisse parler.
Oui, il faut défaire. C'est pas si facile, mais c'est important. Alors, ce qui aide aujourd'hui.
Est-ce
beaucoup...
que vous êtes d'accord avec moi sur la notion d'arborescence, par exemple?
La notion d'arborescence.
Oui, que c'est en fait que ça circule et que c'est dans ce sens-là. S'il y a tellement d'étrangers à Paris, par exemple, qui ont fait ce qu'on appelle les écoles de Paris, que ça serait plus simple de considérer ça comme une circulation avec des moments.
Exactement.
Des lieux de rencontre. Si on le voyait comme une espèce de réseau, on aurait une plus grande compréhension de ces choses et de circulation. On voit bien quand le Dada s'invente, quand Picabia, qui fait une dépression nerveuse, qui est à Vevey dans un home pour les gens qui sont dépressifs, monte à Zurich voir Sarah, c'est parce que les petites revues circulent et tout ça, c'est une circulation.
C'est une circulation qui permet tout ça. Et puis aussi, ce qui est important, c'est de quand on prend en compte cette circulation, c'est de travailler pas seulement sur les moments où les artistes sont dans les centres, mais aussi sur les moments où ils sont chez eux, où ils travaillent, où ils reviennent dans leur famille. Et qu'est-ce qu'ils font? Souvent, ces artistes-là, ils récupèrent dans le lieu, entre guillemets, de leurs racines, des éléments qu'ils lisent avec un regard, entre guillemets, venu des centres et venu de l'avant-garde, qui va faire que cette avant-garde et le travail de l'avant-garde va être encore plus renouvelé. Et c'est là qu'il faut voir l'apport, par exemple, de Picasso, qui est en fait un artiste de la périphérie qui nourrit le centre et dialogue dans les deux sens, mais aussi, par exemple, d'artistes comme Amadeo de Souza Cardoso, qui est inconnu en France, mais qui est, entre guillemets, le Picasso portugais. Cet artiste-là, il savait très bien ce qu'il faisait, de même que Miro. On regarde trop la peinture de Miro par rapport à ce qu'il a fait quand il était surréaliste, etc. Mais Miro, c'est quelqu'un qui se nourrit de l'art gothique catalan, par exemple. Allez au musée d'art catalan de Barcelone, vous verrez des Miro, ou regardez les Miro des années 10-20, et ce dialogue, il est permanent. C'est-à-dire que c'était des gens qui étaient dans une période où en plus, on s'intéressait au primitif. On voulait sortir de la civilisation, sortir de trop de culture, de trop de raffinement, de tout ce qui était imposé, enseigné dans les écoles d'art. Et ça, ils le trouvaient justement dans l'art populaire, dans l'art ancien, dans l'art gothique, dans l'art primitif, quand ils pouvaient en trouver. Et ce dialogue, c'est un dialogue à plusieurs couches, entre centre-périphérie aussi bien spatial, centre entre guillemets bien sûr, que aussi temporel. Centre périphérie temporelle, l'héritage académique impose de regarder vers la Renaissance, de regarder vers le début du 19e siècle. Les avant-gardes, elles vont regarder vers des périodes inconnues, l'art premier, entre guillemets, l'art entre guillemets primitif, l'art entre guillemets nègre. Ça, ce sont des arts dont même aujourd'hui, on ne connaît pas vraiment les périodisations, surtout quand on n'est pas spécialiste de ça. Et ces artistes ne savaient pas d'où ça venait et de quand ça datait. Et puis, regardez aussi vers donc l'art médiéval, vers toutes ces périodes qui n'étaient pas considérées comme le canon, qui étaient considérées comme plus anciennes, donc plus primitives, là, au sens négatif du terme. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Donc faire circuler aussi bien au niveau spatial qu'au niveau temporel, aller et venir. Et c'est ce que les avant-gardes et même les artistes en général font toujours, d'aller et venir, de regarder passé, présent et même la projection, le futur, entre guillemets. Ça, c'est des choses très importantes et très intéressantes.
Si on reprend l'idée même d'avant-garde, si on reprend Riegel et puis la naissance des arts décoratifs, on va déjà, par exemple, avoir... c'est aussi un des éléments, un moment sur lequel on bute dans le livre, c'est le fait qu'il soit orienté vers la fabrication d'objets, même s'il parle de photographie, de cinéma, tout ça, de la fabrication fétichiste de peinture et la circulation des peintures et le marché de la peinture. Si on ouvrait, il y a quelque chose qui va sauter là, qui est vrai, qui est lié à au pop art, en fait, à l'existence d'un art populaire, à l'existence au fait que les catégories ont sauté, si on l'ouvrait, par exemple, simplement à la littérature, et qu'on se demandait qui c'est qui a consacré les maîtres du modernisme, et comment sont faites les circulations, comment sont faites les déplacements, et là, il y a le problème de la langue, des impérialismes successifs linguistiques et tout ça, on entre dans une autre dimension. Cette dimension est abyssale, mais je ne sais pas si on va encore pouvoir en faire longtemps l'économie, si par exemple on va pouvoir faire l'économie de la musique par rapport aux arts plastiques. Et je pense au Bauhaus, par exemple, qui avait effectivement, puisque s'il faut faire la démonstration que Paris n'est pas le centre, on peut prendre le futurisme italien, mais Marinetti vient à Paris quand
vient
même
la
et fait passer son manifeste dans le Figaro. Mm-hmm. Hein, donc c'est quand même, et ils sont là, hein, les autres aussi, les autres futuristes italiens vivent à Paris, au bateau Lavoir en plus. Là,
partie vient à Paris.
Pendant un moment, c'est ce qui se fait. Mais on a donc, c'est assez simple, hein. On vient s'initier ici, on passe une période, puis on rentre chez soi et on essaie de trouver une place sur le marché local. Et on est passé à l'international pendant un moment, et après on gère cette période où on est allé se former ailleurs.
Ça, c'est plutôt pour le 19e siècle. Ça change après. Alors, 14. Après...
Pour moi, ça existe encore en 1950, par exemple.
Ça existe
moi, c'est
encore,
une
mais
constante,
pas pour tous. Il
hein.
y en a c'est qui pratiquement... restent sur le marché international et qui. D'autant plus que, justement, pour exister, pour avoir des acheteurs, il faut être dans les deux. International et local.
Mais
de plus en plus après
oui,
déjà
on n'est pas obligé de diffuser le fait d'exister sur le marché local, c'est plutôt une question de vie. Mais on prend par exemple Ai Weiwei, aujourd'hui. C'est parce qu'il va voir Warhol qui devient Ai Weiwei, donc parce qu'il a été à un moment donné à la Factory, donc c'est comme ça que ça continue à exister. C'est une féodalité, et on est adoubé par rapport à des seigneurs.
On est adoubé par un milieu. Alors, les seigneurs, ce ne sont pas nécessairement les artistes, ce sont aussi les critiques et les marchands.
Bien sûr.
Et c'est une certaine place marchande a pris une place fondamentale dans la canonisation des avant-gardes, entre guillemets. Ça, c'est vers la fin des années 50, c'est le milieu new-yorkais qui s'impose vraiment beaucoup plus tard qu'on le croit, en fait, qui s'impose pas avant 63-64. Tout le récit qui dit que l'art américain, entre guillemets, états-unien, je préfère dire, a été centre du monde après 45.
Tout le monde sait que c'est la Biennale de Venise, en fait. C'est le prix de Rauschenberg.
Et 63. Ça aussi, le prix de Rauschenberg en 1964, ça aussi, c'est quelque chose de très relatif. Rauschenberg, c'était un artiste qui peignait comme les Européens. C'était pas un artiste qui peignait comme à New York. Il était homosexuel, il se sentait pas bien dans le milieu new-yorkais qui est très très mal, et les expressionnistes abstraits, ils aimaient pas les homos. Et Rauschenberg, il était plutôt dans les milieux en Caroline du Nord, et puis il a beaucoup circulé en Europe. Il fait partie d'une génération qui, alors que le contexte new-yorkais était extrêmement nationaliste, extrêmement anti-européen et anti-parisien, Rauschenberg, il fait partie d'une génération qui va en Europe, qui va aussi au Maroc, qui va en Italie, qui va en France et qui dialogue avec la nouvelle génération européenne, qui dialogue avec Alberto Burri, avec Jean Dubuffet, avec Fautrier. Donc cette canonisation de Rauschenberg en 1964, c'était quoi? C'était tout simplement que les jurés de Venise, ils ont trouvé parmi ceux qui étaient exposés dans les pavillons de la Biennale de Venise, quelqu'un qui était le seul représentant d'une génération qui était une génération européenne, qui n'était pas particulièrement reconnue aux États-Unis, ça c'est faux. Mais ils ont couronné ce qui se passait chez eux, ce qui était nouveau chez eux, ce qui était intelligent chez eux. L'idée après de dire c'est l'Amérique qui a vaincu, ça a été une construction médiatique, muséale, etc. Mais c'était pas le pop art, Bob Rauschenberg. Et d'ailleurs, après 64, Rauschenberg, il continue à voyager. Il n'est pas plus à l'aise à New York. Et il continue, il va au Japon, il va en Suède, etc. Et donc, ça aussi, c'est des choses intéressantes à voir. Comment cette, entre guillemets, victoire symbolique s'est construite, s'est imposée, et comment il faut la relire. Hein. Mais effectivement, il y a après l'imposition donc du pop art qui a été construit inventée même par des marchands new-yorkais en 1962.
Et c'était anglais en plus, c'est créé en Angleterre. Alors, sur un propos qui est totalement différent.
Oui, c'est un propos très différent en Angleterre, un propos critique. Et l'idée de le vocabulaire pop, les Anglais, après on dit mais nous on l'avait déjà. Mais il ne faut pas dire que les New-Yorkais ont importé quelque chose d'anglais, ça ne s'est pas passé comme ça. Le pop anglais avec Hamilton, ça c'est des réseaux qui sont là encore européens connectés, après jusqu'au situationniste d'ailleurs.
Hein,
cette avant-garde fabuleuse, très intelligente, très politique, très critique, qui est, excusez-moi, mais tellement plus riche de ce qu'on trouve aux États-Unis dans le milieu du pop art, que c'est assez étonnant qu'on l'ait oublié et que c'est important de revenir dessus parce qu'elle a énormément de choses à nous dire sur quoi, pas seulement sur l'art, pas seulement sur la culture, mais aussi sur le monde tel qu'il est à cette époque en Europe, une Europe blessée, une Europe qui s'est entretuée, qui a tué les juifs, qui a tué les homos, qui a tué aussi des chrétiens, qui a tué des communistes, qui s'est déchirée et qui en même temps est en train d'entrer dans une période de croissance nouvelle, récente, alors là aussi les 30 Glorieuses, c'est beaucoup plus tardif que ce qu'on croit, ça commence pas avant la fin des années 60, le début des années 50, le début des années 60, donc là aussi cette avant-garde, elle parle de ça, elle parle aussi de l'arrivée en force de la culture médiatique populaire, brillante, imagée, colorée qui vient des États-Unis, la publicité, la télévision qui arrive aussi à la fin des années 50, surtout dans les foyers. Donc tout ça, c'était nouveau. Qu'est-ce qui était nouveau aussi? On pouvait circuler davantage. Tout d'un coup, on avait la voiture. Après 56, l'essence est un petit peu plus chère. Donc les voitures vont être moins chères. On assassine Quecento et on va faire le tour de l'Europe. Si vous prenez Manzoni, on ne connaît pas trop son nom, mais on sait qu'il a fait la merda d'artista. Ça, en général, les gens connaissent. Manzoni, il a sa petite voiture, il va voir ce qui se fait à Anvers et il dialogue avec les autres. Les New-Yorkais à l'époque, à la côté, ce sont des autistes. Ils dialoguent avec personne. Donc ça, c'est vraiment quelque chose...
Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est une réalité économique. Ils ont la puissance.
Ils ont la puissance économique et la puissance culturelle et symbolique, elle est arrivée dans la foulée, mais plus tard. Elle est arrivée au début
mais
des années
60. Mais ils la construisent. Ça leur prend quasiment...
En même temps, on ne va pas dire que c'était nul ce qu'ils faisaient. Parce que la culture de la bande dessinée, elle est incroyable. Elle a une puissance phénoménale. Une autre puissance phénoménale, ça a été de faire des œuvres en série beaucoup moins chères.
On peut le dire autrement, le premier livre qui sort sur le dadaïsme, qui a failli disparaître, je parle de Dada très précisément, sort aux États-Unis à cause de ces Dada, Painter and... Artist and Painter, je ne sais plus comment ça s'appelle, il sort en 53, et c'est à cause des exilés que ce livre sort. Il est écrit par un Américain, et il va féconder tout ce qui vient derrière. Donc, on a entendu Schwitters. Schwitters fait des collages, et dans ces collages, il y a des strips américains qui sont publiés mondialement. Donc, c'est trois cases, un strip avec une plaisanterie. Et c'est un des personnages les plus célèbres de des bandes dessinées américaines qui est dans le collage de Schwitters. Et donc, on a ce qui est, pour revenir à vos livres, ce qui est nouveau, c'est l'insistance sur l'économie, sur les marchands, sur la réalité matérielle de l'art, sur la réalité matérielle des institutions.
Très important.
Sinon, c'est effectivement des rapports de force, c'est à ça que je pensais. 67, la Biennale de Venise donne son prix à Julio Leparc.
66,
et c'est,
oui.
C'est un impact. 66, ah oui, c'est 64 et 66, donc il y a 65 entre Rauschenberg et lui. Et ça, donc c'était un mouvement mondial qu'on va appeler l'optical art,
l'art cinétique, etc. On disait plutôt objectif à l'époque.
C'est Julio Leparc qui reçoit le prix. Mais comme l'Argentine n'est pas les États-Unis, par exemple, cette hégémonie ne va pas avoir lieu.
Exactement. Alors, il n'y avait pas la même puissance derrière. Il y avait pas le même backup.
Et on peut penser, puisque je parlais de musique aussi, sur la notion d'avant-garde, à John Cage.
Oui.
Et donc là, on a effectivement une attitude avant-gardiste. Si on prend Boulez, Stockhausen, Ligeti, si on prend Berlioz, si on prend Nono, il n'y a pas photo sur l'héritage de Schoenberg et puis ce qui se passe et ce rapport. Et après, on va pouvoir trouver des Français, Jean Messiaen, Dutilleux. Donc si on sort, et si en littérature, on voit bien, je ne sais pas, que Tournier, par exemple, sonne le glas de la littérature moderniste en France, par exemple. Donc si on sort du champ, et donc si on fait une histoire du design, je pense que c'est encore plus flagrant, on va avoir des choses comme... évidemment l'histoire du cinéma, toute la naissance. Le cinéma est beaucoup plus d'avant-garde que n'importe quel art. À sa naissance, il est d'avant-garde par essence. Mmh. Hein, tout geste est inventif, nouveau. Et alors, c'est ça. Je tournais autour du pot, mais je voulais dire quelque chose. Et il y a aussi une chose qui ferait sens dans une étude globale comme ça, c'est le rapport à la technologie. C'est oui, là, j'ai beaucoup pensé. Ça, bon, moi, j'avais ça, bossé sur les fumistes, travail. Les incohérents, tout ouais. ça. J'avais bossé sur la fin pour des petites. J'ai fait un livre avec des petites monographies, et donc j'ai fait des petites monographies des avant-gardes françaises. Mm-hmm. Avec, mettons, Alphonse Allais, en gros, au centre, ouais. comme ça, on voit à peu près de quoi on parle. Ouais. Et l'importance de la presse, de ces choses-là, oui. L'importance de l'école, l'importance du chemin de fer. C'est-à-dire que c'est des produits, c'est des sous-produits de la révolution industrielle. Ouais. Et là, les places sont chères, il y a le développement du journalisme, les journaux sont fondamentaux dans cette histoire. Ouais. Une figure comme Félix Fénéon, par exemple, c'est la quintessence même de l'avant-garde. Il ouais. faut voir que les types aussi font des, je sais pas, Valoton fait des 1er mai, des émeutes dans la rue et d'autres Exactement, choses, et ouais. les 7 péchés capitaux, et ces gens traversent tous les mouvements et poussent tous les styles très rapidement.
La technologie est essentielle dans voilà. l'histoire du développement des avant-gardes. Alors, c'est une chose, quand on a une approche sociale transnationale, on peut pas tout faire. Et la technologie, elle est en arrière-plan dans les deux livres, dans les trois en fait même. Mais c'est vrai, si on essayait de prendre du recul et de faire un petit peu un résumé de ce qui se passe sur ce long 19e, 20e siècle, hein, ce long siècle de la modernité artistique et culturelle, on a d'abord, à mon avis, essentiel, c'est les transports. Développement des transports qui font un peu des paliers. Alors le premier palier, c'est celui du train. Le train, si vous prenez par exemple, et ça c'est une chose que j'ai faite pour mes cours, vous prenez l'évolution de la carte du train, du réseau de chemin de fer en Europe. Eh bien, Dada, ça va avec ça. C'est-à-dire que Tristan Tzara, il est roumain, il va étudier à Zurich et ensuite il va en France, il passe par tel endroit, etc. Mais on peut suivre ses voyages, c'est le voyage en chemin de fer. Donc ça, c'est une première chose. Très important aussi pour le train, la mise en place de fortune de collectionneurs. Et puis surtout, fortune de collectionneurs aux États-Unis. Hein, les familles qui vont collectionner les impressionnistes dans les années 1840, fin des années 80, surtout les années 1890, les amis de Mary Cassatt, les collectionneurs de Chicago, c'était des entrepreneurs de l'industrie de l'acier et du chemin de fer. Donc première chose, le train. Deuxième chose très importante, le bateau. Hein, il faut pouvoir passer l'Atlantique. Qui fait un voyage en Atlantique? C'est Picabia, vous parliez tout à l'heure de lui. Sans les voyages transatlantiques, il n'y aurait pas eu l'exportation aux États-Unis des œuvres, etc. Il fallait que ça circule. Et c'était pas si facile. Hein, ça prenait un mois d'aller aux États-Unis. Un autre élément très important dans les transports, c'est beaucoup plus tard, c'est l'arrivée donc de la voiture. J'en ai parlé tout à l'heure. La voiture au sens populaire pour beaucoup de monde. Alors, pour quand c'est pas beaucoup de monde, c'est l'arrivée de la voiture. Début 20e, par exemple, le manifeste du futurisme 1909. Si vous le relisez, le manifeste complet, ça commence par quoi? Par Marinetti, qui raconte qu'il est dans sa voiture, je sais plus, sa Fiat, Torpedo peut-être, je ne me souviens plus très bien, mais il est à toute allure, il est super heureux, il sent sa puissance, il est au volant, il a l'impression qu'il fait corps avec sa machine et que sa machine est un fauve qui bondit dans la nuit. Et qu'est-ce qu'il fait en bondissant dans la nuit? Il va tout écraser sur son passage, il écrase les chiens, il le dit, on écrasait les chiens, donc plus rien n'a de valeur, hein, rien n'a de valeur, les animaux, la nature, les chiens, machin. Et donc dans cette histoire, ce début du qui est très drôle, du manifeste du futurisme, il avance et il se retrouve avec face à lui deux vélos qui arrivent en face, et donc c'est l'accident. Et ça aussi, c'est très étonnant comment une avant-garde essentielle dans l'histoire de l'art, qui a été le futurisme, qui a eu des gestes qu'on retrouve aujourd'hui, par exemple, dans ce qu'on appelle l'accélérationnisme et la singularité, c'est-à-dire le désir de surpuissance, de tout accélérer, de regarder dans le futur, de raser tout sur son passage, et même aussi le mépris du corps, le mépris de la femme, le mépris de l'enfant, le mépris du faible, qu'on retrouve dans tout ce qui est ce mouvement-là du côté de la Californie, qui nous fait la GPA, le transhumanisme, les surhommes. Bon, bah ça, on le trouve en 1909. Ça commence dans une voiture. Je trouve ça formidable. Et ça se prend un vélo en face. Donc ça aussi, c'est une rupture. Autre rupture, donc les années 50, quand tout le monde a des voitures, peut circuler et les avant-gardes se croisent, se comparent, hein, se rencontrent. Et puis, dans les transports, rupture technologique de l'avion. transatlantiques, les premiers transatlantiques réguliers. Les lignes, c'est 58, ça coûte très cher. 61, ça coûte un peu moins cher. 1963, fermeture du consulat du Havre. Ça veut dire qu'il n'y a plus tellement, il n'y a plus de voyageurs qui arrivent par bateau des États-Unis, ils viennent tous en avion. Et c'est justement à ce moment-là qu'on voit tout d'un coup la concurrence entre avant-garde états-unienne et avant-garde européenne s'accélérer. Ça, c'est très, très important. Donc, ces ruptures technologiques liées au transport. Il y a aussi la rupture technologique liée aux moyens de production et de reproduction des images. Hein, la photographie. Alors là, allez lire le fabuleux livre d'Arnaud Pierre sur Picabia. Picabia, qui avait un grand-père photographe, et papy dit un jour à Picabia, qui fait sa peinture impressionniste, « Écoute, petit, de toute façon, ta peinture, c'est mort. La photo, elle fait mieux. » Et qu'est-ce qu'il va faire, Picabia? Ça, c'est un petit peu le fil directeur du livre d'Arnaud Pierre. C'est, il va tout le temps penser à son papy et se dire ben papy, je vais te montrer que la peinture, elle fait mieux que la photo. Et qu'est-ce qu'elle fait mieux? Elle fait la couleur, elle fait le mouvement et elle fait la musique. Et c'est ça aussi le défi de l'abstraction vers 1912-1913, c'est faire mieux, faire beaucoup plus beau, faire beaucoup plus juste, faire voilà. Et toute la réflexion des cubistes, il faut la lire aussi dans ce rapport. Pareil, années 50-60, hein, l'invasion du paysage visuel des gens et même de leur imaginaire par l'image de la bande dessinée, la publicité. Tout ça, c'est une réflexion qui se déploie aussi bien chez les néo-dadaïstes. Les dadas, on avait parlé déjà, mais là, c'est beaucoup plus puissant dans cette époque des années, fin des années 50, début des années 60, et puis surtout chez les situationnistes. La réflexion des situs sur qu'est-ce que l'image faite à notre vie quotidienne et en quoi elle nous influence, en quoi elle nous aliène et en quoi on peut lutter contre ça et être plus intelligent et aussi contribuer à changer la société. Cette réflexion, elle a encore des choses à nous dire. Et puis la télévision, bien sûr, mais je m'arrêterai là.
On va bientôt longtemps finir. Je voudrais dire encore, je trouve que j'ai beaucoup d'admiration pour l'ampleur de votre projet. Et je pense qu'il sera peut-être réalisé avec plus de fruits un jour par un Allemand. Parce que je pense qu'en partant de la culture française, avec la hiérarchie des arts, l'éducation qu'on a, qui nous fait, qui est les arts nobles et puis les arts appliqués, qui n'existe pas du tout, par exemple, dans l'éducation allemande, nous rend inaptes,
oui,
à comprendre vraiment ce que c'est, au sens situationniste, par exemple, de l'art dans la vie quotidienne, en fait,
oui, hein,
de ce que c'est une Weltanschauung artistique d'une société.
Mm-hmm.
On a quand même ce sens sacral de l'art très fort,
oui,
et on a aussi pour le pouvoir, hein, c'est pas spécialement lié à la spiritualité. Mmh. C'est-à-dire que une toile représentant un roi nous paraît tout aussi sacrale. Il faut que le peintre soit bon, mais soit reconnu comme étant bon, que une peintre avait une vision de Jésus ou de la Vierge, etc. On a un grand goût pour le pouvoir, pour les hiérarchies, pour la centralisation qui
nous
empêche.
Je ne sais pas si c'est seulement français. Je crois que c'est lié aussi au pouvoir de l'image. Et là, il faut aller voir ce que fait Didier Huberman.
Ouais.
L'image a un pouvoir sur nous, surtout quand elle est figurative. Et ça, on ne pourra jamais en sortir parce qu'on est des hommes, des femmes. Et
mais je trouve que l'histoire de l'art en France n'est pas très bonne en général, justement.
Vous êtes sévère.
Sur ses limites.
Vous êtes sévère.
Par rapport à
l'histoire de l'art, elle est
c'est un genre allemand déjà.
Transnational maintenant aussi. Elle est
alors
extrêmement
ça bouge beaucoup et je suis pas dans
tout le monde lit, ouais, ce qui se fait partout.
Non, évidemment.
Ah, l'histoire de l'art, elle s'est beaucoup renouvelée. Elle est extrêmement
dynamique.
Et là
aussi, j'imagine que l'impérialisme américain qui frappe dans tous les domaines doit aussi frapper dans The Man, mais je
oui,
suis tout
on,
à fait
et ça nous énerve.
Largué.
Et on lutte contre ça, oui, pour justement traduire les travaux de Portugais, de Brésiliens, de Mexicains, de Japonais. C'est un gros travail qui demande beaucoup de temps et beaucoup d'équipes donnent de leur temps, même de leur nuit, pour faire ça, donner accès à des sources venues d'ailleurs. Ça, il y a vraiment quelque chose qui change depuis une dizaine d'années dans l'histoire de l'art et qui commence à se voir dans les musées. C'est pas facile parce que le musée, il fait un autre travail avec d'autres manières. Hein. Le musée, il part d'œuvres. Donc déjà, il faut qu'il ait les œuvres, il faut qu'il ait les moyens. Mais il y a vraiment beaucoup de choses qui changent.
Je pense, mais c'est fini. Là, je pense à James Jones, juste en passant, c'est à cause du Portugal. Mais c'est des moments là, où la reconnaissance internationale fonctionne et puis des moments où elle ne fonctionne pas, en fait.
Oui.
Plutôt que des absolus comme ça, des
exactement,
essentialisés, des choses comme
ouais,
ça.
Faire place au complexe. Merci Yves.
Je vous remercie, c'est passionnant. On pourrait faire ça pendant une année. Il y a vraiment de la matière, évidemment, puisqu'on parle de 100 ans d'avant-garde. Et il y a énormément de choses à faire. Ben, vous reviendrez pour le tome 3.
Avec plaisir. Merci à Radio Aligre.